Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot International en cette fin d'après-midi sur la Radio Mondiale. Et nous évoquerons évidemment les matchs de Ligue des Champions dans cette émission. Avec le PSG est battu à domicile et le rêve d'une aventure prolongée en Ligue des Champions qui s'éloigne. Il faudra aller battre les Blaugrana sur leur pelouse. Or, ce PSG n'était pas au niveau hier soir. Plusieurs joueurs ont failli et des questions se posent autour aussi de l'entraîneur Luis Enrique. L'histoire semble se répéter autour du Parc des Princes. N'est-ce pas, Dominique Sebrac? Bonjour.
Oh oui, Annie, bonjour à tous.
Bonjour aussi à Cédric De Oliveira, puisque vous étiez hier dans les
travées.
Oui. Du Parc des Princes.
Avec Dominique aussi.
Bien sûr.
Oui, c'est ça.
Tu as crié au moins 5 fois.
Ah, mais j'étais concentré sur le jeu.
Oh, on a eu des buts en direct grâce à Cédric et ça, c'était très bien. Quel bilan donc de ces deux soirées de quart de finale? Quelle perspective pour les matchs retour qui nous paraissent à nous tous incertains et qui pour occuper le dernier carré européen? Et puis nous évoquerons Sócrates, le grand joueur du Brésil, qui a désormais sa rue. Pour la première fois, une plaque de rue porte le nom Docteur Sócrates. Et c'est en banlieue de Paris, à Saint-Ouen, la ville qui accueillera cet été les athlètes du monde entier dans son village olympique. Alors vous y étiez, Chérif, bonjour. Hein,
Chérif, oui, Desmond. Bonjour Annie, bonjour à tous. Hein,
vous y étiez avec vos confrères de SoFoot. Il y avait aussi Elcio Ramalho, notre confrère de la rédaction brésilienne, qui viendra tout à l'heure. Et il y avait aussi le petit frère de Sócrates, l'ancien capitaine du Paris Saint-Germain, d'un autre Paris Saint-Germain, n'est-ce pas Dominique? Un certain Raï, et nous l'entendrons aussi Raï parler
légende.
De Sócrates. Exactement, capitaine Raï, c'était ça. Hein,
c'est ça.
David Finzelmaid a préparé cette émission, Mathieu Degal est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Le PSG s'est incliné au Parc des Princes contre Barcelone 3-2. Oh, il y a des choses à dire sur ce match.
On a le droit d'être énervé, frustré, fâché, de voir des joueurs cadres, pas au niveau, encore une fois. Royal.
Otro que vuelve, otro que toca el primer balón. Christensen. C'est l'autre Christensen qui punit le PSG.
Bravo au Barça.
On dit parfois donc que l'histoire se répète avec le PSG, c'est presque chaque année. On y croit, écrivait pourtant hier en une votre journal, Dominique Le Parisien. Vous avez osé y croire?
Oui, bah oui, parce qu'on croyait que les planètes étaient un peu alignées cette année, notamment avec un tableau qu'on connaît désormais, peut-être le tableau le moins difficile.
Parce que ouais, côté, vous pensiez déjà au match d'après, vous.
Non, mais ça compte pour aller en finale. Oui. Et puis, on se disait que ce Barça était peut-être l'un des moins bons Barça de ces dernières années, avec un entraîneur
donné partant. Je me souviens de la joie au tirage au sort.
Donné partant, alors je ne sais pas, peut-être que finalement Xavi va rester, mais bon, il y avait comme ça un rapport de force qui semblait équilibré, en tout cas pas déséquilibré, avec une chance pour Paris beaucoup plus que s'il avait rencontré Manchester City ou le Real Madrid. Et puis patatras.
Et oui, patatras. Alors qu'en Espagne, eh bien évidemment, on se dit content, très bien, écrit très bien, hein, ils doivent dire là-bas, écrit Mundo Deportivo, le journal sportif de Catalogne, qui se permet de terminer son article par « Ici, c'est le Barça ». Hein, il vous chambre un peu. La AS, le quotidien madrilène, parle de Champions Liga, parce que c'est vrai qu'il y a 3 clubs espagnols sur 8. Est-ce qu'on crie déjà victoire du côté de Barcelone? C'est la question qu'on va poser tout de suite à notre correspondant, ami et connaisseur du FC Barcelone. Bonjour François David.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors vous criez victoire, Victoria?
Pas moi, mais j'en parlais ce matin avec des confrères espagnols. Quand j'ai vu hier soir la photo de Joan Laporta, tout souriant, posant sur la pelouse du Parc des Princes, avec trois de ses amis qui font partie du conseil d'administration, je me suis dit, attention, parce qu'ici, c'est l'euphorie totale. Hein. Actuellement, je me trouve d'ailleurs au Camp Nou, qui est en pleine rénovation. Alors, je vois des grues partout. Il y a énormément de personnes, jamais vu autant de maillots Lewandowski aujourd'hui, et la Mini Amaral. Et j'ai l'impression que tout le monde se dit, c'est bon, on va les plier au retour, on va gagner et on va déjà affronter l'Atlético Dortmund. C'est ça qui me fait peur. Ça qui me fait peur. Mais en tout cas, sur le match, sur le match d'hier, ils disent que évidemment, c'est loin d'avoir été volé.
Loin d'avoir été volé. Ça veut dire que quand même, les Catalans avaient un doute et qu'ils ne s'attendaient pas à un tel résultat, on va dire, à même renverser le Paris Saint-Germain. Ils pensaient quoi ? Au mieux ramener un match nul ?
Voilà, ils auraient signé pour un but partout, 2-2, 0-0. Ils auraient pris ça. Ils avaient peur de se prendre un 2-0, 3-0, voire 4, comme c'était passé en 2017, avant la remontada. Là, en plus, ils alignaient dans leur 11 initial un joueur de 16 ans, un joueur de 17 ans, et un joueur qui n'est pas joué depuis plus d'un mois, qui est Francky De Jong. Donc, ils n'avaient pas trop de garanties. Mais les derniers matchs, quand même, nous donnaient une certaine idée que c'est plus dur qu'espéré peut-être par les supporters parisiens. Ça fait quand même 13 matchs de suite qu'ils ne perdent pas. Et de ces 13 matchs, il y a la moitié où ils ne prennent pas de but. Donc la défense c'était quand même paraissait assez solide. Et il y avait quand même cette envie d'aller se frotter une équipe taillée pour la Ligue des Champions comme est le PSG. Maintenant, ils ont été rassurés sur la compétitivité. On rappelle quand même que les deux dernières années, ils n'ont même pas été en huitième de finale de la Ligue des Champions, ils ont été mis en quart de finale de la Ligue Europa. Donc sur ce point-là, au moins, ils ont été rassurés.
Oui. Le PSG, lui, ça faisait longtemps aussi qu'il n'allait pas en quart de finale. Il disputait les huitièmes de finale. Chérif Guémour, sur le site de SoFoot, hier soir, on pouvait lire une tactique illisible, des cadres méconnaissables et Donnarumma qui fait n'importe quoi. Le PSG a retrouvé ses repères en Ligue des Champions. On reconnaît la petite ironie de votre magazine. Mais est-ce que vous signez des deux mains?
Oui, comme disait Michel Hidalgo, il n'y a que les médiocres qui sont toujours à leur meilleur niveau. Je suis dur. Mais non, c'est le PSG qu'on voit en championnat. De toute façon, il faut revenir toujours à la base, c'est-à-dire en championnat, c'est-à-dire une équipe qui globalement domine ses équipes avec des absences pendant les matchs ou ce qu'on appelle les temps faibles. Là, c'est plus des temps faibles, c'est vraiment des absences. Une équipe type qu'on ne connaît pas, finalement, ça change tout le temps. On fait confiance aux petites fusées qu'il y a devant, qui très souvent font la différence, donc pourquoi se priver ? Et puis, donc voilà, l'identité de jeu, on ne la voit toujours pas, l'équipe type, on ne la voit toujours pas. Et au milieu de cette médiocrité, il y a quand même des coups d'éclat. Par exemple, le deuxième but de Vitinha, c'est une pure action construite. C'est étonnant, on côtoie à la fois la médiocrité... c'est-à-dire tous les temps faibles qui peuvent durer, mais vraiment une demi-heure. Et à côté, il y a toujours, avec ce PSG Qatari...
Un éclair,
ou alors un vrai temps fort de 10 minutes, un quart d'heure, où là, on voit vraiment du bon football. Ce qui me fait penser que ce n'est pas entièrement cuit pour Paris.
Alors,
mais c'est mal barré.
Revenons sur le développement du match, parce que une fois encore, le PSG, alors nous vendait, Dominique, n'est-ce pas, un nouveau PSG sans star cette fois, donc qui serait donc meilleur, même si Neymar, on le sait, était souvent absent, mais quand il était là, il avait lui des éclairs de génie, avec un entraîneur qui, en plus, a déjà lui remporté la Ligue des Champions avant, pas après, comme Thomas Tuchel, mais pas de miracle hier au Parc des Princes. Le PSG, c'est donc incliné. Pour le défenseur Lucas Hernandez, c'est une histoire de détails.
Un match qu'on savait que ça allait se jouer à des petits détails dès le début. Et bon, malheureusement, en deuxième mi-temps, on débute bien, on renverse la situation. Et après, malheureusement, surtout ce troisième but du Barcelone de corner, c'est une situation qui ne peut pas se donner. Et voilà, maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller à Barcelone pour renverser cette situation. C'est des matchs, c'est des quarts de finale de Ligue des Champions, ça joue à des petits détails. Et aujourd'hui, bon, ils ont été de l'autre côté, les chances qu'ils ont eues. Ils ont bien joué les coups. Mais bon, après, maintenant, c'est à nous de renverser cette situation et aller à Barcelone pour nous qualifier. On a l'équipe pour et on a tout pour renverser cette situation.
Cédric Oliveira, vous qui y étiez au stade, vous qui avez vu peut-être avec une loupe plus grosse que la nôtre à travers l'écran, est-ce que pour vous ça s'est joué à des détails?
Bah, des gros détails, en tout cas.
Ah, voilà, merci. Voilà. Parce que lui ne parle que de c'est... petits détails.
Non, mais en fait, c'est un peu ce que disaient Dominique et Chérif, c'est que le Paris Saint-Germain joue par... En fait, on a l'impression qu'il lance une pièce et que, effectivement, pour marquer des buts, il faut que les planètes soient alignées. Donc, c'est ce qui s'est passé en début de deuxième période. Mais il y a surtout des erreurs défensives qui sont juste... Je pense que parmi les 8 équipes qui sont là... J'ai vu les 4 matchs là de cette semaine. Parmi les 8 équipes en Ligue des Champions, il n'y a pas une équipe qui est aussi friable défensivement que celle du PSG. Ça passe par son gardien, ça passe par les individualités et ça passe aussi par... toute cette organisation en fait qui fait que le PSG est complètement friable et face à une équipe barcelonaise qui a fait un bon match, mais je rejoins Dominique, c'est pas non plus le Real Madrid, c'est pas Manchester City, c'est normal que le Paris Saint-Germain soit content d'affronter le Barça surtout cette année, mais il faut être capable en fait en quart de finale de montrer plus et le PSG n'a pas de garantie en tout cas défensivement. Ne l'a pas montré hier en tout cas.
Il n'y a pas de marge. Il n'y a pas de marge. Ouais. Il n'y a pas de marge au niveau du jeu. C'est-à-dire qu'on peut aligner. On a tout essayé au milieu du terrain. On était parti sur Ugarte, sur Zairem. Et en fait, il n'y a pas de stabilité au niveau du milieu de terrain. Donc, fatalement, la défense va être exposée. On va avoir du mal à trouver les attaquants. Comme tu l'as dit, moi je regarde les autres équipes. Ça ressemble à quelque chose. Il y a une certaine lisibilité. Avec Paris, je ne vois pas. Je vois que des coups d'éclat, des fulgurances.
Dominique, vous écrivez aujourd'hui dans le journal, en tout cas le titre, c'est Paris trop naïf. Est-ce que c'est pas trop gentil?
Oui, il y a tous les mots des dernières années qui sont concentrés.
Est-ce qu'on peut pas dire que l'équipe n'était pas au niveau hier soir?
Si, elle n'était pas au niveau.
Si, elle n'était pas au niveau. Comme a dit David, c'est pas volé. Et moi, je trouve que Paris s'en sort bien finalement avec ce 2-3. La bonne nouvelle pour Paris, c'est qu'en ayant joué que 2 fois un quart d'heure en première période et en deuxième période, ils sont à un but, qu'ils auraient pu être punis beaucoup plus.
Alors aussi, ils auraient pu gagner aussi.
Ils ont tapé le poteau, donc bon, ils ont aussi eu des occasions pour gagner. Mais finalement, ils s'en sortent bien vu la physionomie globale du match. Le meilleur a gagné, donc ça c'est plutôt pas mal en foot. Mais à la fin, Paris est à un but de faire une prolongation au match retour. Et un but, je suis désolé, en foot, un but c'est un pénalty parfois litigieux, c'est un carton rouge pour Barcelone dans les 10 premières minutes. Il peut se passer tellement de choses en foot.
Les planètes sont alignées.
Voilà.
Ça fait des années qu'on dit ça quand même. Non,
mais un but, c'est pas dingue. Parce que même moi, j'ai écrit qu'il faudra une remontada, mais une remontada, c'est pas un but.
Non, c'est pas une remontada, un but suffit.
Si Paris gagne 2-0, c'est pas une remontada.
Mais Barcola, il touche la barre, à un moment donné, si Dembélé le marque.
Le Barça aussi a des occasions dangereuses.
Bien sûr. Mais c'est ça, en fait, Paris, c'est... on va voir.
Ils ont raté leur match aller, Annie. Ils sont pas à l'abri de réussir leur match retour, d'en faire un sur deux.
Paris ne voyage pas très bien.
Un match sur deux, ils vont passer.
Attendez. Depuis quand cette saison, à quel moment on a vu un PSG bon de la première à la dernière minute?
Ah non, mais c'est sûr. De toute façon, c'est pas le...
Jamais.
Là, on a vu le Real et le Manchester City.
Mais gagner, ça peut être 4-2, un shérif, là-bas.
Non, mais je suis d'accord. Non, mais moi, si j'étais rassuré par la garantie que les gars, ils vont te faire un match plein pendant 90 minutes, je suis pas inquiet, ils vont passer.
Tu l'as jamais vu.
On l'a jamais vu.
Tu l'as jamais vu.
Alors que moi, je regarde Real et Manchester City. Alors,
bien sûr, il y a plus de certitudes, évidemment.
Bien sûr. Mais t'es dans l'abri qui te le sort le 16 avril. En fait, tu t'y attends plus.
C'est ça, le PSG. C'est une sorte d'équipe complètement imprévisible avec des individualités qui sont quand même assez fortes.
À partir du moment, faut avoir des garanties sur le jeu.
Je suis d'accord avec toi, mais comme tu l'as dit à un moment donné, si on est réaliste, là Paris, c'est la seule équipe qui joue à domicile qui a perdu. Pour l'instant, ils sont en ballotage défavorable. Voilà. Mm-hmm. Pour l'instant, ils sont éliminés, alors que dans tous les autres et aussi Dortmund. Mais bon.
Dominique, on connaît la faiblesse psychologique du Paris Saint-Germain. Vous pensez qu'ils ont retrouvé une force psychologique?
Moi, je crois qu'on se défait jamais de ces démons totalement, même s'il y a qu'un seul acteur de la remontada qui s'appelle Marquinhos. Ouais. Moi, je pense que c'est. Puis même, il y a des éliminations en huitième de finale traumatisantes où il y avait Kylian Mbappé, où il y avait d'autres joueurs contre Manchester United, contre le Real Madrid. Il reste quand même des Donnarumma, il est encore là. Vous vous souvenez, contre le Real Madrid, avec la faute, pas faute de Benzema. Donc, il reste des joueurs qui ont vécu ces traumatismes-là. On sent comme une sorte de chape de plomb sur l'ensemble du club. Et ça, Luis Enrique, avec son petit adjoint psychologue, il va pas pouvoir le chasser en.
C'est pas ce qu'on a entendu, justement, hein. Marquinhos, Lucas Hernandez, Luis Enrique et moi j'ai croisé des supporters hier, tous les supporters à qui j'ai posé la question, ils disaient ah mais non, moi je suis confiant, ça va passer, on n'a pas eu de chance, voilà. Alors après les supporters ont moins d'impact effectivement que les acteurs du club, mais il y a quand même, je sais pas, il y a eu un truc, les gens restent quand même persuadés que cette équipe a les moyens. Bah c'est le football quoi, on verra bien.
Oui, non, mais voilà, ça peut passer quoi. Il y a surtout, bon déjà, il y a la pensée magique qui accompagne le PSG Qatari depuis qu'ils sont arrivés. Donc il va se passer quelque chose, vous verrez.
Et on voit rien.
Et on voit rien.
Et, bah, ça peut arriver
et la deuxième
moment,
chose,
quoi.
Je pense qu'on reste encore, même moi je suis tombé dans le piège, on reste sur l'idée du Barça du début de saison, qui était complètement amorphe, par moments catastrophique. Or là, ça fait quelques matchs,
oui, j'ai vu le Barça. C'est pas une raison pour avoir ce mauvais PSG quand même.
Raison plus.
Barça, j'ai vu quand même des failles défensivement. Oui. Il y avait
c'est
quand
pas,
même.
C'est mais pas c'est... un grand Barça, on est d'accord.
Non,
c'est
par contre, Jules Koundé, il est pas devenu le meilleur arrière droit du monde.
Non. Par contre, j'ai vu le réveil de Lewandowski.
Non, mais ça a l'air
j'ai
meilleur.
Vu la bonne rentrée.
Oui, mais Lewandowski, il avait aussi, je pense, un défenseur, enfin, en tout cas, un adversaire qui était pas au niveau hier. C'est Beraldo.
Donc Lewandowski se remet à marquer en Liga, ce qui n'était pas le cas. Il y a encore 2 mois.
François. Non, allez-y, Cédric.
Non, c'est juste que parce qu'on l'a dit hier déjà, mais ce qui était frappant hier, c'était plutôt d'avoir une équipe qui avait un peu plus de cerveau, sans faire injure aux Parisiens, mais voilà, qui pensait plus au football. Non, mais en tout cas, les joueurs barcelonais paraissaient avoir plus de cerveau, de quiff,
de
quiff football, pardon, que les
Pourtant,
Parisiens.
C'est l'équipe plus jeune. Hein.
Et ouais, mais Pedri, il arrive, il rentre. Il rentre, il n'a pas joué depuis un mois, il fait la passe qu'il a bien, ils ont plus de talent, ils ont plus de.
On parle beaucoup de Jude Bellingham cette saison, mais l'un des meilleurs joueurs en Europe, et bon, en tout cas, la révélation, ça c'est sûr, c'est Lamine Yamal. Il a quel âge ?
16 ans.
Il a commencé.
Et Kobarsi, non ?
Oui, mais Kobarsi, c'est encore plus récent.
Ouais.
C'est encore plus récent. Lamine Yamal, il a commencé dès mois.
Oui, mais alors lui, il confirme largement.
Ah, oui.
François David, comment vous avez vu, vous, cette rencontre de Barcelone, pardon ?
Nous, d'abord, au début du match, j'entendais Cédric dire que le PSG avait des...
Nous PSG ou nous Barça ?
Des un peu folles. Non.
Tu es démasqué,
depuis
François.
Barcelone, on considère... Bah, je vis ici, hein. on considérait que le Barça, finalement, n'avait pas un effectif bien moins inférieur que celui du PSG. Cédric parlait d'individuer folles du PSG, mais elles sont où ? Elles sont où ? Dembélé ? Dembélé, depuis le début de saison, c'est un but et 3 passes. Moi, je connais bien Dembélé, je l'ai eu 5 ans ici. Mbappé, d'accord ? Mais Kangingli, Asensio, Ugarte, Vitinha, bon, ce sont pas non plus des grands joueurs. Et le banc de touche, qu'on l'a regardé hier, Gonzalo Ramos, 80 millions, Colomani, 100 millions, je veux dire, tout l'argent dépensé, pourquoi ? Pourquoi ? Et c'est là, en fait, où ils se foutent un petit peu de la gueule du PSG. Pardon de parler comme ça, parce que le seul transfert qu'a fait le Barça cette année, c'est Oriol Romeu, 3 millions. Qui n'a même pas joué hier. Tout le reste, ça vient de la maison.
Ils savent ce que c'est, les transferts ratés, le FC Barcelone, je crois, de ces dernières années. Mais c'est vrai que ça va un peu mieux là-dessus, maintenant.
Oui, mais pour moi, l'effectif du PSG, il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau, l'effectif du PSG. Dans l'effectif du PSG... Donnez-moi un joueur qui peut donner une dernière passe comme peut le faire Pedri, par exemple. Ils n'ont pas un joueur comme ça. Ils n'ont pas un milieu de terrain créatif.
C'est ça.
C'est un gros manque. Mm-hmm. En défense centrale, Marquinhos, on le connaît. Donc, pour répondre à votre question, Annie, ils étaient... ils ont eu peur pendant 20 minutes, mais après, ils se sont vite rendus compte que le PSG était friable de partout et que le gardien, surtout, était à un niveau terrible. Donnarumma, il l'avait ciblé d'ailleurs, il disait que pour les grands matchs, il n'était pas présent. Surtout en Ligue des Champions et surtout avec ce PSG-là. Bah, ils ne sont pas trompés, on a vu une différence entre un immense gardien comme peut être Ter Stegen et un gardien médiocre comme les Donnarumma. Et ça, au niveau défensif, ça paye. Ça paye, évidemment.
Dominique, on a l'impression que c'est un sujet tabou, Donnarumma au PSG.
Bon, écoutez, Keylor Navas, malheureusement, sa doublure n'est plus vraiment dans le coup parce que il a très très mal vécu la passation de pouvoir que Leonardo, à l'époque, le directeur sportif, lui a imposé.
En 2021.
Il s'était imposé. Le PSG avait enfin trouvé un bon gardien, un gardien qui avait gagné trois fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Et parce que Leonardo était ami avec l'agent de l'époque qui était en vie, Mino Raiola, qui depuis est décédé, avec Donnarumma, et que Donnarumma était libre. Opportunité de marché.
Et jeune.
Nous a-t-on dit. Donc il a dit, bah tiens, je le prends, même si j'ai déjà un bon gardien. Or, le foot, c'est pas parce que il y a un gars qui est libre, qui est bon, que tu le prends et que tu le mets gardien, alors que t'en as déjà un bon. À ce compte-là, tant pis, 8 attaquants, 12 gardiens, 5 défenseurs centraux, 8 arrière-droits. Ça marche pas comme ça, le foot. La doublure doit être juste en dessous de le titulaire. Elle peut pas être équivalente au titulaire. Donc il y a eu la cohabitation. Pochettino a installé une cohabitation un peu Gavas, un peu Donnarumma, et puis la force des choses, l'âge, comme vous dites,
on sait que ça se passe pas bien en plus, théoriquement, voilà. Pas que là, hein. Donc, on se souvient à Marseille.
Donc voilà, le verre était dans le fruit dès le départ avec ce recrutement qui n'aurait pas
mais
dû
avoir lieu. Mais on persiste à le garder et finalement on se rend compte que sur les grands rendez-vous, eh bien, parfois il fait vraiment des erreurs. On se souvient à Madrid face au Real, et hier soir, le troisième but.
C'est un gardien qui est fantastique sur sa ligne, mais qui n'a que cette qualité-là. C'est-à-dire que son jeu au pied n'est pas bon, il ne domine pas sa surface, il ne domine pas les duels aériens.
Ouais. Faut pas non plus oublier que ce qui fait aussi la
il
force.
Il progresse pas, c'est ce qu'on lui reproche.
Faut oublier aussi que ce qui fait aussi la force d'un gardien, c'est la relation qu'il a avec ses défenseurs, la relation de confiance. Elle n'existe pas. Je veux dire, des défenseurs par rapport au gardien et du gardien par rapport à ses défenseurs. Ça sécurise vraiment, comme tu dis, vraiment maîtriser sa surface.
Dominer.
Ça passe. Et mais après, si on part de la défense, mais pareil, combien de fois elle a été chamboulée, et c'est quoi la relation de la défense avec le milieu?
Là, c'est vrai qu'il a encore rechangé hier.
Tu vois ce que je veux dire?
Alors, l'entraîneur...
Marquinhos, latéral droit, s'il vous plaît.
L'entraîneur, justement. C'était lui, hein, l'homme qui entraînait le Barça au moment de cette fameuse remontada de 2017. Ouais. Il avait un peu forcé le trait avant la rencontre, hein, on s'en souvient. Alors, je ne sais pas si le ton était très ironique ou très humoristique.
Non, il est un peu dégo, Luis Enrique.
Il se disait porteur de l'ADN du Barça, c'est vrai.
Il a un peu forcé quand même.
Le PSG a eu la possession, hein, mais ça n'a pas suffi, on le sait, posséder n'est pas forcément gagner. Écoutons la réponse de l'entraîneur après ce match et en vue de l'avenir.
Ce n'est évidemment pas le résultat que nous attendions, mais il faut voir le positif, analyser le match calmement. Et dans ce cas, je pense que c'était un très bon match pour le spectateur, moins bon pour l'entraîneur qui perd, c'est-à-dire moi dans ce cas. Mais nous allons nous améliorer, nous allons penser positivement à ce que nous devons faire à Barcelone, qui est simplement de disputer ce match retour comme s'il s'agissait d'une finale. On ira là-bas pour gagner.
Tomarse ce partido como una final y eso no nos vale la victoria.
La victoire. Alors, Dominique, il y a des reproches. On a entendu certains sur la compo, comme on dit, hein, oui. les choix de départ. Il y a aussi, c'est ce que disait Chérif tout à l'heure, cette gestion surprenante des matchs au quotidien, c'est-à-dire ceux du championnat où on n'a pas l'impression de connaître quel est le 11 de base, ni surtout le style de jeu. Des erreurs peut-être envers Mbappé, erreurs de communication.
Il y a un peu tout ça, oui. Il y a un peu tout ça. Bon, sur la communication, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de fautes graves comme Christophe Galtier, le char à voile, un truc comme ça. Sur la com, je mettrais ça plutôt de côté. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'équipe type. Je trouve que c'est embêtant. On est à la fin du championnat. Il reste 6 journées. On est au quart de finale de la Ligue des Champions. Il y a une finale de Coupe de France dans quelques semaines contre Lyon. On ne sait toujours pas qui est titulaire. Bon, là, il y avait l'arrière droit, Achraf Hakimi, qui était suspendu. Donc, il fallait dépanner. Moukele était sorti contre Clermont, protocole commotion. Donc, il n'y avait pas vraiment de solution. Bon, il a bricolé avec Marquinhos. Mais, est-ce que ça sera Skriniar? Est-ce que ça sera Beraldo? Est-ce que ça sera Danilo? Est-ce que ça sera Lucas Hernandez? Personne ne peut le dire. Pourquoi Zaïre Emery n'était pas titulaire? On ne sait pas. On ne peut pas vous donner d'explication.
Oui, c'est ça. Il commande jamais ses choix. Voilà, c'est ça qui est un peu.
Il a dit parce que moi j'assiste à l'entraînement et pas vous. Donc la seule réponse qu'on a eue.
Pourquoi vous n'y allez pas à l'entraînement, Dominique?
Parce qu'il s'est à huis clos et qu'on n'a pas le droit. Et que si j'y vais, on peut
me retirer. Puis c'est loin en plus. Donc si c'est pour rester.
On peut me retirer mon accréditation si on me retrouve là-bas. Ah oui. Donc vous ne voulez pas y aller.
Vous savez, vous pouvez monter sur un mur et regarder. Voilà. Demandez à Bielsa comment il est.
Et donc,
un drone.
Oui, il y a la gestion d'Mbappé qui joue 50 minutes depuis qu'en interne il a annoncé qu'il partait.
Ça arrange pas les choses.
Il y a voilà pourquoi Asensio qui jouait contre Clermont mais qui avait été mauvais contre Clermont. Quand vous êtes mauvais contre la lanterne rouge du championnat, il y a peu de chances que vous soyez bon trois jours plus tard.
Eh ben non, vous êtes titulaire.
Eh ben voilà. Donc ces choix-là sont très incohérents. Je pense que ça insécurise l'équipe. Je pense que ça la déstabilise. Alors lui, il dit, il faut être imprévisible pour nous-mêmes et pour l'adversaire. Alors pour l'adversaire, non, je sais pas, mais pour eux-mêmes, je sais.
Ouais, ça, voilà, c'est
tu
ça.
Tu fais ça quand t'es au Barça, que t'as Messi, que t'as Suarez et tout ça.
Et ouais,
là, d'accord. Là, je peux.
Et Piqué.
Oui, non, mais pas là. C'est... Non, non. Puis après, je pense aussi que, comment dire, Luis Enrique, comme beaucoup d'entraîneurs étrangers, je pense qu'ils ont une mauvaise perception de la Ligue 1. Mm-hmm. D'autant plus, c'est quand on leur refile le PSG, parce que tout a l'air facile. Mais non, la L1, c'est un championnat très dur. Tout le monde finit par le comprendre, souvent trop tard. C'est athlétique, il y a une vraie intensité. Ce n'est pas l'intensité à l'anglaise, mais il y a de la vraie intensité. Il faut de la patience, il faut savoir construire une équipe et avoir une plus grande modestie. Du simple fait qu'on arrive au PSG, qu'on est quasiment assuré de gagner le championnat parce qu'on a les meilleurs joueurs, je pense que ça installe pas mal d'entraîneurs étrangers, notamment au PSG, dans un certain confort et qui perdent un peu le sens de la mesure quand arrivent les vraies échéances, c'est-à-dire les Coupes d'Europe et la Ligue des Champions.
Un petit bémol quand même, c'est qu'il a quand même compris quelque chose à la mi-temps. Il a décidé de faire rentrer Barcola.
Ça reste un bon technicien.
Voilà, et replacer Dembélé au milieu
et le
rapprocher de Mbappé, ce qui a un peu créé des décalages. Au moins, on peut pas lui enlever ça. Mais c'est vrai que globalement, en ayant fait, comme il fait d'habitude, comme dit Dominique, le fanfaron un peu avant le match, et il s'est un peu planté quand même contre Xavi, donc voilà, à voir après s'il n'est pas capable de trouver quelque chose encore, ou en tout cas de bien préparer son groupe pour le match retour.
Il nous donne une revanche, Mbappé nous donne une revanche. Je ne sais pas si on va parler d'Mbappé, mais il est passé à côté, nous doivent une revanche, ils ne peuvent pas être à ce niveau-là, quoi.
François David.
Même au niveau de la com, moi je suis pas d'accord, Dominique, pour moi il s'est planté, parce qu'en disant, moi c'est moi qui reporte l'ADN Barça. Vous pouvez pas savoir comment est-ce qu'il a énervé ici. Mais... Non seulement les supporters, là, il va se faire siffler au retour, à Montjuïc dans une semaine, Il va se faire siffler pour ces paroles-là. Il a énervé Xavi, évidemment. Vous avez vu après, l'échange entre Xavi et Luis Enrique, super froid, Luis Enrique qui essayait de faire des blagues, Xavi ne répondait pas du tout. Et il a énervé surtout les joueurs. Et là, je peux vous dire que les paroles de Luis Enrique ont été affichées dans le vestiaire, où ils en ont parlé entre eux, et ça les a surmotivés justement pour montrer, attends, pour qui il se prend. Il est parti il y a 5 ans maintenant, et ça les a transcendés. Il va y avoir trois personnes qui vont siffler. À Montjuïc, Luis Enrique, Ousmane Dembélé, pour avoir célébré son but comme un dératé, à pouvoir passer 5 ans ici en jouant le quart des matchs, et Kylian Mbappé, évidemment, pour son futur au Real.
Tu as raison François, mais il a énervé, c'était peut-être maladroit tout ça.
C'est planté.
Mais on verra mercredi matin ou mardi soir s'il avait tort. On verra. S'il y passe, il pourra dire je vous avais dit, l'ADN du Barça, c'est moi. N'oublie jamais qu'il y a un match retour.
Sur ce match-là, en tout cas, il s'est bien planté. Et on a vu, d'ailleurs, comme tu l'as dit ce matin dans Le Parisien, que la tradition a surplanté la copie ou quelque chose comme ça.
Tout à fait. Je vois que tu as de bonnes lectures.
Exactement.
En tout cas, arrêtons-nous sur un personnage de ce FC Barcelone dont on attend donc le match retour. Lui aussi, cette équipe assurait de pouvoir compter sur un élément sur lequel peut-être certains avaient des doutes, et c'est le Brésilien Rafinha, ancien de Rennes, ancien aussi du Leeds de Marcelo Bielsa, c'est pas n'importe quel Leeds. Et Rafinha, au micro de Marco Martins, évoque le match qu'il a réalisé.
A gente sabia da importância desse jogo e sabia o que a gente tinha que fazer para poder sair.
On connaît l'importance de ces grands rendez-vous. On sait comment faire pour les gérer. Pour moi, ce fut une soirée très spéciale, pas seulement pour mon trophée d'homme du match, mais aussi pour mes deux premiers buts inscrits en Ligue des Champions. J'ai enfin fini par y arriver et en plus, c'est un doublé dans une rencontre où j'ai plutôt bien joué. Alors même si je ne crois pas que je doive répondre aux critiques et qu'il faut plutôt le faire sur le terrain, je pense que ce match est une bonne réponse à ceux qui doutent de moi.
Acredito que isso serve de resposta para alguns aí que andam me criticando bastante.
C'était une belle surprise, cette prouesse, on va dire, un homme du match de Rafinha hier soir, François David.
Oui, parce que bon, ça fait quand même un mois qu'il est mieux. Rafinha, il est décisif. Il a marqué contre Las Palmas il y a une semaine. On le voit de plus en plus. Xavi ne lui a jamais retiré sa confiance, même s'il avait du mal. Enfin, il faut dire que sa communication, encore une fois, c'était très malheureux. Cet été, on l'a présenté, et lui-même, sur Instagram, l'avait fait comme le successeur de Ronaldinho. Je veux dire, il n'y en a qu'un seul, Ronaldinho. Et pour quelques dribbles faits en Premier League ou à Rennes, on a vu que c'était compliqué. Mais c'est compliqué. Donc en plus, après, il a souffert de la comparaison avec Lamine Yamal, qui joue au même poste. Mais Xavi, finalement, lui a trouvé un poste un peu hybride sur le côté gauche, qui rentre beaucoup dans le centre. Et là, il est bon, parce qu'il est puissant, il sent bien les coups. On l'a vu d'ailleurs sur le deuxième but. Ce but-là, on l'a vu quand même plusieurs fois cette année en Liga, et c'est mérité parce qu'il n'a rien lâché. Le Barça, vu sa situation financière, rêvait de le vendre en Arabie Saoudite. Il a toujours refusé. Il a toujours dit « je vais m'accrocher, vous allez voir que je vais être décisif à un moment donné ». Et ben, je trouve que hier, il l'a prouvé et je suis plutôt content pour lui.
Alors ce match retour, comment le voyez-vous, messieurs ?
Bah, pour l'instant, c'est mal embarqué pour Paris. Comme l'a dit Chérif, c'est vrai qu'il y a quand même une fragilité défensive qui est rédhibitoire. Moi, je pense que c'est pas moi qui le pense, c'est tout le monde l'a dit. Les grandes compétitions se gagnent sur le pouvoir défensif. Une Coupe du Monde, un Euro, une Ligue des Champions, tout ce que vous voulez. Donc moi, on m'a beaucoup parlé de Benzema, par exemple, quand le Real Madrid a gagné, mais on a oublié tous les arrêts de Courtois qui étaient fantastiques. Vous pouvez pas à ce niveau-là survivre si vous n'avez pas un grand gardien. La France peut pas aller en finale de la Coupe du Monde si Lloris se fait.
Ils vont mettre Navas dans les buts.
Ça, je sais pas, mais c'est pas qu'un grand gardien, c'est aussi une structure, un état d'esprit avec Mathieu.
C'est ça, surtout.
Voilà, et donc là, ça, le PSG l'aura pas dans 5 jours. Donc là-dessus, je suis assez pessimiste. Après, je me dis que l'ADN du Barça, c'est d'attaquer, quoi qu'il arrive, qu'il y aura quelques espaces et que un but, c'est pas fou d'imaginer que Paris peut aller en prolongation.
Et puis, Kylian Mbappé a le droit de faire un autre match que celui d'hier. Alors,
il n'aura pas deux en général.
Est-ce qu'il jouera ce week-end déjà?
Non, il joue pas de match. C'est vrai que voilà, parce qu'ils la Ligue a eu la bonne idée, en tout cas, de décaler tous les matchs des clubs en Europe.
Et en plus, on leur a donné ça.
Et Paris récupère Achraf Hakimi qui était suspendu.
Il a manqué hier.
N'a pas de suspendu. Ouais. Bon, ça fait 2-3 motifs d'espoir, Annie.
C'est vrai que hier, il a été bien pris, Mbappé, surtout, en première période, bon, c'était un peu stéréotypé, il lui filait toujours le ballon sur le côté gauche, au bout d'un moment, bon, ce que je disais, Xavi, les Barcelonais regardent les matchs, bon, ils savent un peu, en plus Koundé, il le connaît un petit peu, parce qu'ils jouent en équipe de France ensemble, bon, il y a peut-être d'autres choses à faire, ou en tout cas, d'autres choses à tenter, et peut-être mettre Dembélé dans l'axe, repartir avec la composition de la deuxième période.
Voilà,
avec Zaïre Emery
et Achraf Hakimi et remettre Marquinhos dans l'axe.
Mais je vous dis, c'est ce que je vous disais, hop, on lance la pièce et on verra.
C'est ça.
C'est un peu ça et ça peut passer.
Mais Paris va prendre un but, ça c'est sûr, Kani.
Sans doute, je sais pas. Non, mais ce qu'on peut attendre, les fondamentaux, tel qu'on a vu le match hier, les fondamentaux des deux équipes. Moi, je vois une équipe de Paris en apnée, c'est-à-dire créer du mouvement, entre guillemets, brasser de l'air, et puis avec une fulgurance, ça peut marcher. Et en face, ce que j'ai vu du Barça, même si c'est pas le Barça qu'on a connu il y a 10-15 ans, évidemment, je vois quand même plus de stabilité dans le jeu, je vois quand même un plus grand calme, une plus grande confiance dans le collectif. Et ça va, devrait suffire pour le Barça. Mais les fulgurances, voilà. Mbappé a marqué 3 buts en finale de Coupe du Monde. Il est encore capable de ce genre de dinguerie.
Il a marqué 3 buts au Camp Nou à 3 ans. Bon, c'est pas le même stade.
Il est capable de ce genre de dinguerie.
On va attendre jusqu'à la 80e pour savoir, Annie. Peut-être que.
80e?
Bah oui, comme à la Coupe du Monde.
C'est la 80e. D'accord, effectivement.
S'il y a 2-0.
Je sais pas, j'ai pas vu moi.
Vous savez, s'il y a 2-0 pour Barcelone à la 80e, et qu'après, il peut y avoir 3-2 pour Paris avec un triplé d'Mbappé.
C'est vrai.
Et Kolo Muani juste avant la prolongation.
Cette fois, il marquera. C'est les mêmes acteurs.
Cette fois, il jouera et il marquera. Hier soir, il y avait un autre match de Ligue des Champions. L'Atlético Madrid, on avait deux équipes espagnoles qui jouaient. Les deux équipes ont gagné. L'Atlético Madrid qui s'est imposé 2-1 dans le sillage de son principito Antoine Griezmann qui a rayonné et se montrait plutôt satisfait.
On a gagné, donc c'est le plus important. On est une équipe qui est mieux sur le pressing de la perte du ballon ou un pressing dynamique quand il y a une passe derrière. Donc voilà, avant c'était attendre derrière et être bloc bas, mais maintenant on prend plus de buts en le faisant. Donc On essaye de changer les choses, mais c'est vrai que c'était la tactique du début de match. On savait qu'avec le public, bah, ça allait pousser énormément. Donc voilà, après, ils ont des joueurs de grande qualité. On a vu sur la deuxième où ils nous ont mis derrière. Mais c'est un quart de finale. On a gagné le premier match, il reste un autre. Donc voilà, nous, on est tranquille, posé et en pleine confiance. Et on sait qu'on aura un gros match à jouer là-bas. Mais voilà, on en a gagné un sur les deux et il va falloir aller chercher là-bas le résultat.
François David, les quarts de finale de Ligue des Champions, c'est 3 clubs espagnols sur 8 et les deux qui jouaient hier soir, les deux l'ont emporté. C'est un bon résultat aussi pour l'Atlético, même si ce but marqué par Sébastien Haller, l'Ivoirien, en dernier instant du match, pour le match retour, du coup, ça rend cela un peu plus chaud.
Un peu plus piquant, picante. Oui, bah oui, forcément. Maintenant, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet pour Atlético. Parce que j'ai vu le Borussia contre le PSG cette année. J'ai vu plusieurs fois en Liga et l'Atlético de Madrid est habitué à ce genre de match-là. Pour moi, le match le plus dur, c'était hier soir. Il fallait qu'il le gagne absolument. Je suis pas trop inquiet, paradoxalement, pour le match retour parce qu'ils ont une équipe extrêmement bien rodée. C'est le même groupe de joueurs depuis, 6-7 ans. Maintenant, donc effectivement, ils gagnent pas tout le temps, mais au moins ils se connaissent par cœur. Ils ont un Griezmann qui peut vraiment faire de la différence. Dommage simplement qu'ils aient pas le feu Memphis Depay qui est blessé depuis un mois. Ça, c'est vraiment dommage. Mais ils ont prouvé contre l'Inter, c'était vraiment un groupe qui pouvait aller au charbon. Et moi j'y crois. Moi, je pense qu'il peut avoir une demi-finale espagnole, Barça Atlético de Madrid et l'Atlético. Vraiment, moi, je pense qu'ils ont les ressources mentales. Physique, ils ont un entraîneur extrêmement expérimenté et je pense qu'ils ont vraiment toutes les armes pour se qualifier, y compris à Dortmund où les équipes ont du mal, mais on a vu le PSG qui n'était pas flamboyant à l'extérieur cette saison faire un bon résultat là-bas, donc moi j'y crois vraiment pour ce match retour.
Merci beaucoup François David d'avoir été en direct avec nous depuis le Camp Nou. Alors c'est pas vous qui jouez ni le Barça, mais c'est votre fils.
Oui, ouais, j'espère qu'il y jouera un jour. En tout cas, moi je peux vous dire, alors là je suis en face. Ça va être dur de tenir les délais hein, pour le nouveau Camp Nou.
Ah bah pour Otis.
Qui est censé être livré en décembre. En décembre Spotify prochain. Spotify. Mon fils a 9 ans. Peut-être dans 7 ans.
Dans 7 ans comme la mini.
Voilà. Peut-être sur RFI. Voilà.
Quel poste.
Mais, la Coupe du Monde 2030.
Là, ça va être très très dur de. C'est vrai. Je lui dis d'ailleurs. Non.
Mais de quel côté.
Là, ça va être très très quel dur hein, de respecter les délais. Hein. En plus, ça commence à faire très chaud. Donc. Les ouvriers ne travaillent plus à ce moment-là, forcément, parce que ça tape. Ils vont devoir cravacher. Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, François David, d'avoir été en direct avec nous depuis l'Espagne. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces quarts de finale se terminent pour les matchs aller, finalement, sur un suspense énorme pour les matchs retour.
Avec 18 buts.
Ouais. Partout.
Spectaculaire. Ouais. Fantastique. Mmh. J'ai assisté à un sommet la veille.
Real City.
Ouais, c'est autre chose, quand même.
Alors, aucun match n'est abouti. C'est des matchs imparfaits, mais bon, c'est ce qui donne aussi leur saveur et leur côté spectaculaire. Moi, je peux absolument pas vous dire, Annie, qui va se qualifier dans les quatre.
Non, on a l'impression d'être enfin rentré dans la Ligue des Champions et dans le très haut niveau.
C'était quand même d'un autre niveau mardi.
Oui, c'est vrai.
Un peu supérieur. Hein.
Un petit commentaire annexe. Vous avez vu qu'en Ligue des Champions, au très haut niveau, même les arbitres sont au très haut niveau. On n'a pas besoin de VAR.
Notamment François Le Texier, un Français au Madrid, qui a été très bon.
Il a été salué unanimement. Donc, des fois, on peut se passer de la VAR.
Hier, ça s'est bien passé.
Quand on a des bonnes équipes et des bons arbitres. C'était une pique.
Merci beaucoup, Chérif, pour cette appréciation. Non. Allez, on continue dans Radio Foot International avec un nouvel invité dans ce studio. Bonjour, Elsura Malio.
Bonjour.
Il faudrait vous ouvrir le micro. Vous pouvez répéter bonjour.
Bonjour, Annie. Bonjour à tous.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous rencontrer.
Bem-vindo. Justement, obrigado. Parce qu'on va parler d'un Brésilien, même d'un très grand Brésilien.
Fico, vilka dragningar! Och så grattis, vilken passning! Grattis, vad är det för att komma alltså? Fico, Sokrates, kolla på Bela Saindo! Sokrates! Sokrates i cima do gol, a festa! I cima da linha de gol!
Nous mesurons aujourd'hui la puissance de cette feu Sokrates. Aujourd'hui, nous marquons l'histoire. Être fidèle à Sokrates, se lever chaque jour avec la volonté de redonner de la confiance et de l'espoir au peuple. Espoir d'un monde meilleur à tous les enfants. Ces valeurs de générosité, de lutte et d'amour.
Socrates, il fut un immense joueur de football d'une élégance exceptionnelle et bouleversante, balle au pied, et il a joué dans les meilleures sélections brésiliennes qui ont contribué à la grandeur, à l'image, à la réputation du football do Brasil. Et pour la première fois, donc, une rue a été baptisée à son nom, une rue longue de 900 mètres, à Saint-Ouen, ville limitrophe de Paris, où se situera, mais en finition, on va dire, le village olympique des athlètes de Paris 2024. Rue Docteur Socrates est écrit sur une plaque blanche avec en plus des dates de naissance et de décès, et bien ces indications, footballeur international brésilien et fondateur de la démocratie corinthienne, signe que l'aura de ce footballeur idole dans son pays va bien au-delà de l'immense talent d'athlète. On va écouter le maire que vous avez rencontré, Elcio, mais une chose, pourquoi dit-on Docteur Socrates? C'est toujours un titre honorifique en Amérique latine, mais là non, c'est plus que ça.
Non, il a été étudiant de médecine quand il a démarré le football. Il s'est formé même, il est médecin et sportif. Mm-hmm. Donc du coup, c'est là qui voilà, médecine du sport. Donc c'est là qu'il devient, docteur Socrates depuis le début de sa carrière. Donc voilà, il a fait des études de médecine en parallèle avec son club formateur de Ribeirão Preto. Au nord de São Paulo.
Ah ouais, dans le nord de l'état de São Paulo, effectivement, le Botafogo de Ribeirão Preto, où il jouait. Pourquoi une rue Socrates à Saint-Ouen? Eh bien, le maire Karim Bouamran répond à votre micro, en parallèle évidemment avec ce village olympique.
On inaugure la rue Socrates avec toute la symbolique que ça comporte. Socrates, c'est l'incarnation d'un monde meilleur, la démocratie, la République, les valeurs, le progrès. On a envoyé un message que Saint-Ouen était totalement aligné avec le combat universel porté par Socrates et la démocratie des Corinthians. C'est pour ça que c'était un moment très fort. C'est pour ça que tout ce qu'on fait à Saint-Ouen, on est dans la transmission, on est dans le partage et on est dans l'espoir d'un monde meilleur, que toute la nouvelle génération reçoive ces valeurs et la transmette pour les prochaines générations.
Pourquoi ce maire a-t-il décidé de baptiser une ville du nom de Socrates?
En fait, le maire de Saint-Ouen, il a noué déjà un partenariat avec l'association Go de Letra, c'est l'association des RAI. Mm-hmm. Donc, il y a un partenariat.
Une association caritative qui fait dans les quartiers, notamment.
Et qui vient jouer une fois par an un match à Paris pour récolter des fonds avec des stars, des anciennes stars, gloire du PSG.
Il y a une antenne ici, une antenne au Brésil, mm-hmm. donc il travaille beaucoup avec des enfants par rapport au sport. Et il y a aussi la mairie de Saint-Ouen a noué un partenariat avec le comité olympique brésilien et la délégation brésilienne va s'installer à Saint-Ouen. Donc, le maire a décidé en quelque sorte de rendre hommage au Brésil. Il a choisi en fait le docteur Socrates parce que le lien avec RAI, il est lien avec le Brésil. C'est un passionné du sport, c'est un passionné du foot brésilien.
Puis c'est une ville qui ressemble aussi à Socrates. Moi, j'ai passé 14 ans à Saint-Ouen parce que le Parisien avait son siège là-bas autrefois. Et c'est une ville qui aurait adoré Socrates. C'est une ville cosmopolite.
C'est ce qu'a dit RAI.
C'est aussi une ville avec une population extrêmement jeune.
Il faut expliquer aux gens qui nous écoutent que c'est au nord de Paris, ça touche la porte de Clignancourt, et c'est une ville où il y a les puces, les fameuses puces.
C'est là où il y a le Red Star.
De Saint-Ouen, c'est là où il y a le Red Star. Il y a les fameuses puces où on peut chiner et voir des belles choses à la fois dans les fringues et dans la brocante et tout ça. C'est une ville absolument géniale qui vit, qui a une ville jeune, évidemment qui a des problèmes de délinquance et qui a des problèmes, tout ça, mais c'est vraiment une ville très sympa. Et Socrates, connaissant son parcours, connaissant ses idées, c'est un des rares hommes de gauche que le football ait connu, il aurait adoré cette ville.
Et on va écouter Raï, son frère, parce que Raï lui aussi a des idées semblables à celles de son frère, et il suffit de l'écouter.
C'est éterniser tout ce que Socrates représente, éterniser pour le monde, hein, c'est le village olympique, c'est très symbolique, on est à Saint-Denis, on est à Saint-Ouen, on est en France, mais on est à la capitale du sport du monde, 2024, et il s'est éternisé toutes les idées, toutes les valeurs qui représentent Socrates, la justice sociale, l'égalité, la démocratie, surtout la liberté, la paix aujourd'hui, qu'on a autant besoin. Et pour avoir la paix, il faut qu'on ait un monde plus juste, plus solidaire pour tous. Le maire, quand il avait 9 ans, il a regardé Socrates jouer, ça lui a marqué. Il y a plein de gamins qui vont passer dans cette rue, qui vont voir Socrates, docteur Socrates. Ils vont regarder son histoire, ils vont être fiers, ils vont s'inspirer, ils vont changer le monde.
Chérif Guémour, racontez-nous, vous, ce que vous savez aussi de cette démocratie chrétienne, hein, parce que c'est ça aussi. Alors je sais que vous adorez ce club, Elcio, c'est votre club de cœur, Corinthians. Mais qu'est-ce que ça représente par rapport justement aussi à Saint-Ouen?
par rapport à Saint-Ouen, donc comment dire, déjà il y a comment je dirais, il y a le lien politique parce que le club du Red Star est éminemment politique avec la figure un peu tutélaire qui est Rino Della Negra, qui était sur l'affiche. Sur la fiche rouge, et donc... dans le groupe Manouchian.
Voilà, qui s'opposaient au régime nazi et qui ont été exécutés, assassinés.
Évidemment,
et panthéonisés il n'y a pas longtemps. Ouais.
Évidemment que ça parle à un homme comme Rail, qui est vraiment attaché à ce genre de valeurs. Mais de toute façon, dans l'intervention de Rail, il a bien prononcé cette symbiose entre Saint-Ouen, la démocratie corinthienne, Socrates, Rail, tout cet ensemble. Et d'ailleurs, dans la délégation brésilienne, il y avait aussi des représentants des paysans sans terre qui étaient là. C'est pas tout à fait un hasard. Et sinon, pour la petite histoire, en fait, alors je vous raconte très très rapidement, le Comité international olympique, quand il décerne les JO à une ville et tout, notamment pour le village olympique, on construit un village olympique et c'est à la ville de baptiser les rues. Et c'est comme ça que le maire a eu cette idée. Mais cette décision appartenait à la ville de Saint-Ouen. Et donc, il y aura d'autres noms de sportifs dans le village olympique, parce que c'est un village qui est né... Qui est sorti de terre pour les Jeux Olympiques.
Dans l'arrondissement de Paris. Chez Rachid Adati, par exemple, ça ne serait pas passé. Quoi.
Écoute.
Quel est l'impact? C'est la première fois au monde qu'on donne le nom de Socrates à une rue.
Rail m'a dit que peut-être dans la banlieue de São Paulo, il y avait peut-être un stade qui avait pris le nom de Socrates. Mais il n'y a pas de rue.
Il n'y a pas de rue.
C'est incroyable.
C'est fou ça.
Docteur Socrates, non, il y a juste Socrates. On ne sait pas si ça correspond au joueur ou pas. En fait, il y a juste un gymnase.
Alors Socrates, il faut le dire, c'est le nom en fait du philosophe grec. Oui. Le papa de Socrates avait une passion pour les philosophes. Il y avait Démosthène, il y avait Sophocle dans la famille. Mais Socrates, en fait, pour nous, c'est Socrate, c'est-à-dire le grand philosophe. Je le précise juste parce qu'on l'a toujours appelé Socrates, bien sûr.
Donc il y a un gymnase à Ribeirão Preto, là, la ville où il a commencé le football. Et apparemment, c'est tout, en fait.
Qui porte le nom de
Socrates. C'est pour ça qu'on a vu qu'il y a...
Pardon ? J'étais avec l'équipe de France à Ribeirão Preto.
Exactement, voilà.
Il parle pas vraiment de Socrates, là-bas.
Exactement, oui. On ne parle pas beaucoup de Socrates, mais pourtant, il est très, très important. Et c'est intéressant de voir, en fait, la couverture de la presse brésilienne. On était tous là, en fait. Hein, les correspondants des télé, des chaînes, des journaux. Donc, ça fait vraiment la une.
Donc, il fait plus à l'étranger, finalement.
Oui, c'est à l'étranger. Ça a été dit, en fait, pendant la cérémonie aussi. Rai même a mis en valeur ça.
Oui, quand les médias brésiliens ont appris ça, ils se sont dit, mais c'est pas possible. Les Français rendent hommage à Socrates, alors que nous, Brésiliens, on n'a encore rien fait.
Mais il a participé à un des plus grands matchs qu'on ait vu dans notre vie, ce qui est le France-Brésil 86.
Tout à fait. Un grand match, l'Italie en 82 aussi.
Oui, mais pour nous, Français. Écoutons
un extrait que nous a préparé David Finzel, qui a toujours des références. Écoutons ce petit extrait de 1980.
Quand Zico a le ballon, il y a danger. Socrates est parti à grandes enjambées et c'est pas une mince affaire. Attention ! Et but de Socrates ! Ah, c'est encore une action à se lever. D'ailleurs, le public du parc applaudit ce troisième but, Didier. À Socrates, c'est un cas dans le football. On vous a dit qu'il était médecin, il est pédiatre même. Et il se consacre au football pendant quelques temps. Il a 27 ans, 25 sélections. Il est très complémentaire avec Zico, on en a eu la preuve à l'instant. Et le Brésil mène par 3 buts à 0.
República Popular do Corinthians, responsa. São mais de 30 milhões, uma nação.
Et vous avez même trouvé un rap qui parle de la nação.
Voilà,
un document.
Parce qu'on a parlé de la démocratie corinthienne, il faut juste dire que Socrates a été un des fondateurs de cette démocratie corinthienne entre les années 82 et 84. C'était le moment
de la dictature militaire.
De la dictature brésilienne. C'est pour ça qu'il a aussi beaucoup travaillé pour un mouvement qui s'appelle Direta Já, ça veut dire pour les votes.
Pour les élections directes,
donc à l'époque de dictature. Donc on voit vraiment un hommage non seulement aux footballeurs, mais aussi
à
son rôle.
Merci à tous. Rendez-vous demain pour le Café des Sports.